Du fait de la révolution technologique, nous allons changer de métier plusieurs fois dans notre vie et le métier que vous exercerez dans 10 ans n'existe peut-être pas encore. Je m'appelle Isabelle Rouen, je suis entrepreneur et fondatrice du cabinet de recrutement de dirigeants Colibri Talent. Tous les jours, j'accompagne des femmes, des hommes et des entreprises qui se transforment et qui transforment leur métier. Avec ce podcast et Métiers du Futur, je vous propose de rencontrer des dirigeants, des entrepreneurs, des chercheurs. Bref, des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Fabien Versavo. Fabien, tu es le PDG de Rakuten France et Executive Officer de Rakuten Group. Tout au long de ta carrière, tu as défendu l'innovation numérique en mêlant des objectifs économiques, environnementaux et sociétaux. Car une technologie qui profite véritablement à la société doit profiter à tous. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur des plateformes à impact positif. Bonjour Fabien.
Bonjour Isabelle.
Écoute, bienvenue au micro du podcast, je suis ravie de te recevoir. Et déjà pour commencer, est-ce que je peux te demander de nous présenter un peu ton parcours ?
Alors mon parcours, écoute, je suis marié, j'ai 3 enfants et j'ai fait une formation d'école de commerce que j'ai complétée par un exec MBA il y a quelques années qui m'a donné l'opportunité de sortir vraiment d'Europe, ce que j'avais pas eu l'occasion de faire, en tout cas à titre professionnel, les premières années de mon parcours de vie au travail. Ça, c'était très enrichissant et moi, j'ai 2 éléments au niveau professionnel. Le premier, c'est que j'étais passionné par l'automobile. Donc j'ai commencé par travailler dans le secteur automobile, c'était ma première passion. Et lorsque cette passion finalement m'a amené à rencontrer le monde de la tech, ce qui était dans les années 2000, eh bien l'intérêt, mon appétit, mon excitation par rapport aux enjeux internet et aux sujets technologiques l'a emporté sur ma passion initiale pour le secteur de l'automobile. Et donc depuis une vingtaine d'années, je travaille dans le monde de la tech. Voilà.
Et qu'est-ce qui t'a amené à prendre la tête de Rakuten France fin 2018 ?
Alors c'est le défi. J'ai été vraiment enthousiasmé par la rencontre avec Hiroshi Kitani, le fondateur de Rakuten, qui est un groupe technologique japonais dont on va certainement reparler, qui, lors d'un passage à Paris, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, et l'opportunité que j'ai décelée de rejoindre le groupe, et plus particulièrement de prendre la direction des activités en France et en Europe de l'Ouest ensuite, et dans un contexte de marché, de l'e-commerce, qui a énormément évolué ces dernières années, extrêmement concurrentiel, et avec la possibilité ici pour moi, dans une logique hyper entrepreneuriale, de déployer un nouveau modèle, de transformer une boîte qui existait avant, qui s'appelait Price Minister, que ce groupe avait donc racheté.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu un gros rachat sur la partie France.
À partir en 2010.
D'accord.
Voilà. Il y a eu une dizaine de rachats en Europe.
D'accord.
Mais effectivement, des plus gros, c'est en France. Et d'une entreprise qui avait connu une accélération, une croissance formidable les premières années, et puis qui, à partir de 2013-2014, était entrée dans une spirale plutôt difficile, délicate, au plan des ventes, au plan de la rentabilité, au plan du management. Et donc moi, quand j'arrive en 2017-2018, que je rencontre les gens de Rakuten, j'entrevois une opportunité de conduire une transformation, un retournement, de réinventer cette boîte comme si c'était la mienne. C'est pas moi qui l'ai créée, mais en tout cas, je m'étais fixé la mission de la réinventer, et c'était ça qui était passionnant.
Alors justement, qu'est-ce que tu as fait et c'est quoi le métier de Rakuten aujourd'hui en France ?
Alors Rakuten est un groupe technologique international né au Japon qui est présent dans une trentaine de pays. C'est une boîte cotée et c'est une société qui a la caractéristique par rapport à d'autres groupes internet, d'autres groupes de technologie dans le monde, de déployer un modèle d'écosystème. Donc avec une grande diversité d'activités, on est à la fois une plateforme d'e-commerce, mais aussi un des principaux acteurs dans le domaine des fintech, donc des services financiers. On a toute une carrière d'activités autour des médias et des contenus digitaux, des applications de messagerie, des liseuses électroniques sous la marque Kobo, que l'on connaît bien voilà, en France, et d'autres activités dans la publicité digitale ou dans les télécommunications. Donc c'est un grand conglomérat, 80 sociétés, présents, je l'ai dit, dans une quarantaine de pays. Et en France, Rakuten avait donc racheté plusieurs sociétés, dont Price Minister, que nous avons transformées et diversifiées. Et aujourd'hui, nous avons 3 métiers pour faire court. Le premier, c'est un métier de plateforme d'e-commerce.
D'accord.
Voilà, donc on est une des 3 principales places de marché, on y reviendra peut-être. Une activité de fidélisation avec le Club Air que nous avons créé en 2019. Nous sommes le premier programme de fidélité de l'Internet, de l'e-commerce en France.
D'accord, c'est quoi? C'est 12 millions de membres, je crois?
C'est 12 millions de membres aujourd'hui, un petit peu plus, et avec la possibilité, lorsque tu es membre, de bénéficier d'un système de cashback. Donc, d'accord, c'est de la générosité, c'est du pouvoir d'achat. 900 euros en moyenne chaque année dont bénéficient nos membres. C'est du pouvoir d'achat qui est gagné directement. C'est une activité que nous avons lancée en 2019. Et enfin, troisième segment en France, une plateforme de ce que l'on appelle le e-fulfillment, c'est-à-dire une plateforme technologique qui aide les marchands qui commercialisent sur différentes marketplaces, pas uniquement Rakuten, d'accord, à gérer toute la partie logistique qui est, d'accord, ultra complexe.
Ok, donc trois métiers, un métier B2B avec le e-fulfillment, un métier de CRM et après un métier de plateforme de vente en ligne assez classique.
Exactement.
Et qu'est-ce qui différencie Rakuten des autres? Parce que quand j'ai préparé l'épisode, moi j'ai vu beaucoup de choses sur l'impact positif, la plateforme responsable, c'est aussi l'angle de l'épisode qu'on a choisi ensemble. Et je t'avoue que ça m'interpelle et ça m'intrigue, parce que les plateformes n'ont pas toute bonne presse. Donc c'est vrai que je serais intéressée de comprendre qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un ou une plateforme différente sur ces aspects-là.
Oui, tu as raison. C'est-à-dire que le concept de plateforme qui s'est évidemment développé et propagé en tant que modèle économique ces 10 ou 15 dernières années, il revêt en fait énormément de réalités différentes, de propositions de valeur différentes en fonction de la vision de l'entreprise. Et la vision que nous avons déployée ici, elle est très inspirée d'ailleurs par ce que fait Rakuten au Japon, qui est une vision d'un e-commerce qui est inclusif, d'une plateforme qui développe des technologies au service de ses partenaires, et qui privilégie une approche partenariale, qui privilégie le recours à la digitalisation pour pouvoir accompagner la transformation d'un écosystème. En l'occurrence, de notre cas, ce sont les marques, les enseignes et les petits commerçants, et utiliser des technologies pour aider l'écosystème à s'adapter aux changements économiques, aux évolutions des comportements des clients.
Donc tu leur donnes un pas de porte, en fait.
C'est leur donner un pas de porte, une plateforme. Nous, on appelle ça dans notre jargon un shopping mall. C'est-à-dire que ce que nous proposons, contrairement à d'autres acteurs de l'e-commerce dits également plateformes qui ont souhaité finalement vendre leurs propres produits, développer leur propre marque très souvent et proposer une logique hybride avec des petits vendeurs et en même temps leur propre magasin, le tout regroupé au sein de leur plateforme. Nous avons fait le choix de rester fidèles à un positionnement, une vision qui est celle de Rakuten depuis 1997 et qui est l'année de la création au Japon et qui est de finalement développer une plateforme qui soit une marketplace à 100%.
D'accord, donc vous ne fabriquez rien.
Nous, on ne commercialise pas nos propres gammes, nous n'avons pas notre propre boutique, on n'est pas à la fois opérateur de plateforme et primo vendeur. D'accord. Sur la plateforme. Notre seul intérêt, c'est de rendre la plateforme et le shopping mall le plus visible, le plus intuitif, le plus simple à utiliser pour les commerçants et le plus intéressant d'un point de vue économique, pouvoir d'achat, proximité avec le consommateur. Et c'est notre capacité à actionner les leviers du côté de la demande et du côté de l'offre qui nous permet de proposer ce modèle de plateforme. Donc une pure marketplace. Aujourd'hui, nous avons 12 000 vendeurs, petits et grands, présents en France, en Europe et dans le reste du monde.
Et combien de clients?
C'est environ 14-15 millions de Françaises et de Français qui, tous les mois, utilisent la plateforme.
D'accord, voilà. C'est énorme.
12 millions de membres et 200 millions de produits dans 14 univers produits différents. Et 200 millions de produits, 200 millions de références produits différentes, c'est absolument colossal.
Donc des sujets data et des sujets logistiques importants.
Donc des sujets data et logistiques importants. Et pour répondre à ta question, la dimension à impact positif de notre modèle, c'est à la fois l'élément que je viens de développer qui est, il n'y a pas de conflit d'intérêt. On n'est pas à la fois opérateur sur la plateforme et concurrent des commerçants.
Ouais.
Donc lorsque tu es une grande enseigne, par exemple Carrefour, qui est un de nos partenaires et qui a sa boutique sur la plateforme, eh bien, lorsque tu es Carrefour ou Boulanger ou Darty, pour citer trois de nos partenaires très importants, si tu veux, tu te dis avec Rakuten, je trouve une extension naturelle de mes activités et je vais pouvoir engager plus de clients au travers de cette plateforme sans craindre que Rakuten puisse utiliser certaines informations pour pouvoir être un concurrent, finalement développer des gammes, par exemple. On l'a vu dans d'autres plateformes qui viendraient en opposition à mes propres services. Donc un climat de confiance et de sécurité avec un alignement d'intérêts entre la plateforme et ses partenaires. Et le deuxième facteur en ce qui nous concerne, qui caractérise notre démarche et notre mission de plateforme à impact positif, c'est la seconde main. Un produit sur deux sur la plateforme aujourd'hui qui est vendu est un produit pre-owned ou pre-loved, comme disent les Anglais. Je pense que pour les plateformes généralistes dont nous faisons partie, c'est un score qui est tout à fait exemplaire. Chez nous, la seconde main ne représente pas une petite catégorie à la marge.
Ouais, c'est vraiment,
c'est au cœur du modèle.
1 sur 2, d'accord. Et justement, le modèle économique, c'est quoi ?
Alors, c'est un modèle économique extrêmement simple. Comme je le disais, c'est un modèle économique qui a été construit pour refléter cette vision d'alignement et de convergence d'intérêts, puisque nous rémunérons exclusivement lorsque nous apportons du chiffre d'affaires.
D'accord.
Aux commerçants. Donc, on pourrait dire que notre modèle est à la performance, puisqu'il permet finalement à des petits commerçants notamment de pouvoir ouvrir leur magasin sur la plateforme, réaliser quelques ventes et valider finalement la nécessité ou l'intérêt pour eux de développer leurs activités e-commerce.
Et de faire de la vente en ligne via Rakuten. Et vos clients, c'est qui, vos 14 ou 15 millions de clients en France ? Est-ce qu'il y a un profil type ?
Non, c'est tout le monde. Nous sommes, comme je te le disais, on a une couverture en termes de catégories de produits, de segments de la consommation qui est très large, à la fois large et profonde sur chacun des univers. Donc nos clients, ce sont les consommateurs français, les Françaises et les Français, alors qui achètent des produits non alimentaires.
Oui.
Il y a un segment qu'on ne couvre pas, c'est alimentaire. Pour le reste, nous sommes présents partout.
Et alors, tu l'as dit à un moment, Rakuten, c'est une entreprise qui est japonaise. Qu'est-ce que ça influe et impacte sur la culture d'entreprise, le fait d'avoir cet actionnariat japonais ?
Alors, c'est au cœur de la manière dont on pense nos produits et nos services, dont on élabore notre stratégie, et en même temps, sans être imposé. Je m'explique. Rakuten, comme je l'ai dit, c'est un grand conglomérat. C'est un groupe qui a beaucoup procédé par croissance externe.
D'accord.
Pour se développer hors du Japon. Et donc, contrairement à d'autres grands groupes de technologie, chinois ou nord-américains par exemple, on a un modèle qui est beaucoup plus décentralisé.
Donc, je te confirme que les groupes américains et chinois sont très centralisés.
Voilà, exactement. Centralisés en termes de produits, centralisés en termes de stratégie et en termes de culture. C'est un peu du one size fits all. En ce qui nous concerne, et c'est aussi un des éléments moi, qui m'a beaucoup attiré lorsque j'ai rejoint l'aventure. En ce qui nous concerne, l'espace qui est le nôtre, c'est la possibilité, en termes notamment de management et de positionnement de l'entreprise, de créer quelque chose qui soit à l'intersection entre la culture, l'état d'esprit, la vision européenne, et en même temps, les mêmes éléments, culture, vision, état d'esprit, ADN japonais. Et c'est ce que nous avons vraiment recherché, et ce sur quoi nous avons travaillé ces dernières années. On a cherché à créer une entreprise, un modèle de plateforme, et je crois un modèle d'équipe, qui prenne le meilleur des deux mondes, entre les traits de créativité, d'inventivité, de dynamique européenne, et en même temps, les traits particulièrement japonais, de confiance dans l'avenir, de temps long, d'équilibre, d'harmonie. Et c'est pas qu'un discours d'estrade, parce que quand on évoquait précédemment le modèle de la plateforme et ce qui nous caractérisait, on fait facilement le lien entre la volonté d'être dans une approche partenariale avec nos clients, avec les marques et les enseignes, ce que j'évoquais, et ce qui se passe au Japon. Quand
D'accord.
on connaît un peu le Japon, on sait que le Japon est un pays d'équilibre, d'harmonie, de temps long, et on voit bien qu'au Japon, les entreprises comme Rakuten ne sont pas du tout focalisées dans la culture du hack, de la disruption.
C'est pas le hack, c'est pas l'hypercroissance. Vous êtes quand même piloté au quarter si vous êtes une boîte cotée.
On est une boîte cotée, donc on est piloté au quarter. Mais en fait, la croissance et la valeur, tu la tires de ta capacité à collaborer et à faire de l'empowerment auprès de l'ensemble de tes partenaires, quel que soit le secteur dans l'e-commerce, dans la publicité ou dans les médias d'ailleurs. Donc en fait, toute ton inventivité, toute ta capacité d'innovation et de production de plateformes et de produits, elle est tournée vers le fait de créer de la valeur partagée.
D'accord.
D'accord. Elle n'est pas orientée vers la recherche de la disruption, la recherche de l'éviction.
Donc on n'est pas dans le gros hacking, on n'est pas là-dedans.
Non, on est dans une définition d'un écosystème, on est dans une relation donc symbiotique. On cherche à créer de la valeur pour les deux entités ou pour les N entités et à leverager les effets de réseau. On ne cherche pas à remplacer, à substituer.
Ouais.
D'accord ? Et donc ça, moi, je ne connaissais pas, pour être très franc avec toi, je ne connaissais pas la culture business et encore moins technologique japonaise avant de rejoindre Rakuten. Donc j'ai passé pas mal de temps au Japon et j'ai découvert ça.
Mais je ne suis pas surprise. Tu vois, moi, j'ai eu la chance de travailler pour Nissan. Alors, il y a quelques décennies maintenant, ça fait plus de 2 décennies, soyons honnêtes. Et effectivement, la culture que tu décris, celle de l'harmonie, cette capacité à avoir des décisions qui sont quand même très collégiales quand tu présentes quelque chose à hiérarchie et que tu fais la conduite du changement, c'est un petit peu ce que je retrouve dans ce que tu viens de nous énoncer. Donc, je ne suis pas surprise, en fait, sur ce côté-là culturel qui, effectivement, est très différent de ce qu'on peut voir chez nos camarades nord-américains. Alors, je connais moins le monde de la tech chinoise, mais côté nord-américain, je confirme que c'est un petit peu différent et beaucoup plus dans cette fameuse culture du hack. Et tu as commencé à parler à un moment de tes équipes et j'aimerais bien qu'on revienne justement sur les équipes, sur la culture managériale et puis sur les métiers qui sont liés à l'innovation et aux plateformes puisque le podcast s'appelle « Les métiers du futur ». Donc quand même, qu'est-ce que toi, tu vois comme métier aujourd'hui apparaître et émerger dans cet univers des plateformes et la distribution e-commerce ?
Alors, ce que je vais dire, évidemment, n'est pas un propos 100% nouveau, mais ce qu'on voit énormément émerger, ce sont l'ensemble des jobs qui tournent autour de l'intelligence artificielle et de la donnée.
C'était ma question d'après, l'intelligence artificielle dans tout ça, mais ouais. C'est bien, on va grouper les deux. Vas-y.
Non, mais en fait, donc, c'est des jobs, les jobs existants, les jobs de sales, les jobs de produits, les jobs de tech, les jobs de communication, de HR, de legal, l'ensemble des fonctions qui composaient l'entreprise, une entreprise comme la nôtre, avait la caractéristique déjà d'être, un, très international. On a 34 nationalités ici.
Vous êtes combien à Paris ?
On est un peu plus de 450 à Paris, ici, dans ces locaux.
Et il y a d'autres sites hein, il y a forcément de la logistique, j'allais dire de la production, mais non, pas de production justement, mais de la logistique. Mais ouais, il y a d'autres sites du coup ?
Alors, il y a d'autres sites, pas de logistique, on y reviendra peut-être. On travaille avec des logisticiens, mais on n'a pas nous-mêmes nos propres capacités logistiques. On a fait le choix, là encore, d'être dans une logique de développer des plateformes qui font de l'empowerment, qui digitalisent l'acteur en place, pas de leur faire concurrence. Mais nous avons d'autres sites en France et dans d'autres pays en Europe de l'Ouest. On est dans 6 pays en Europe de l'Ouest.
D'accord.
Donc, c'est une communauté d'environ 2000 personnes. Et donc, pour revenir à mon propos, les jobs se sont évidemment beaucoup transformés ces dernières années par les technologies et par la dimension multiculturelle et internationale. Mm-hmm. By design dans notre industrie. Et ce qui est en train d'arriver, ce que nous avons déjà commencé à observer en 2023, mais ce qui va évidemment s'accélérer et s'amplifier très fortement dès cette année, c'est la dissémination de l'intelligence artificielle dans l'ensemble des fonctions, avec plus ou moins de maturité selon les types de jobs. Donc tu as à la fois des nouveaux jobs qui apparaissent.
Mm-hmm. Lesquels ?
AI engineer, prompt engineer, AI architect, etc.
Donc tout ça. Tout ce qui est lié à l'IA générative et la façon de l'appliquer dans les procédures, c'est ça ?
Tout ce qui est lié, pas uniquement à l'IA générative, mais à la data science, donc au machine learning, au deep learning et aux IA génératives. Sachant qu'aujourd'hui, le déploiement le plus profond dans les entreprises en 2024 portera très probablement sur des cas d'usage ou des modèles de deep learning slash machine learning, qui sont les intelligences artificielles, qui sont celles qui s'intègrent le plus dans les process opérationnels et qui amènent le plus de transformation. Les IA génératives, on est sur des sujets d'expérimentation encore, on est sur des cas d'usage qui sont plus compliqués à exécuter, notamment pour des questions économiques, ça coûte très très cher.
L'hébergement coûte une fortune, c'est-à-dire que c'est pas tellement le fait d'entraîner un modèle qui coûte cher aujourd'hui, c'est qu'au fur et à mesure de la requête, la facture cloud peut s'alourdir très très violemment.
Exactement, exactement. Donc voilà, pour revenir à ta question, on a en effet des nouveaux jobs qui consistent finalement à créer des équipes d'architectes data, de statisticiens, de data engineers, de prompt engineers qui vont construire les plateformes, les infrastructures et les applications qui sont les sujets sur lesquels là on va investir et on va travailler en 2024. On a déjà commencé en 2023. Et ensuite, tu as évidemment l'intégration de l'intelligence artificielle dans les métiers existants.
D'accord. Hein,
qui évidemment est un autre grand sujet.
Un autre grand sujet sur lequel on a déjà fait quelques épisodes. Et est-ce que tu as une équipe R&D en France ?
Alors absolument, nous avons une équipe R&D en France. On a créé il y a quelques années le Rakuten Institute of Technology. Ils sont juste à l'étage en dessous, là. Et on a une trentaine de doctorants, de data scientists, de PhD, qui viennent du monde entier, Amérique du Sud, Proche-Orient notamment, et qui travaillent, donc le Rakuten Institute of Technology, qui travaille à la fois pour la France et l'Europe à développer des modèles, des applications, mais également qui travaillent en réseau avec des équipes similaires qui sont basées en Amérique du Nord et au Japon.
Hyper intéressant. Et alors, est-ce que Rakuten prévoit de recruter en 2024 et si oui, sur quel métier ?
Alors, on va peu recruter en 2024. Comme un certain nombre de groupes dans la tech, on est dans une logique où nous sommes très vigilants quant à notre masse salariale et à notre staff. Contrairement à d'autres groupes internationaux ou européens, on n'a pas fait d'efforts de réduction drastique de la masse salariale en 2023. On a plutôt procédé par de petits ajustements. Et donc l'objectif pour nous là en 2024, c'est de stabiliser. En revanche, on va développer, notamment sur l'intelligence artificielle, et on va onboarder des nouvelles équipes sur ces sujets-là, je l'évoquais. Mais sur les fonctions plus classiques, Ce sera une année encore de transition, je pense,
d'accord.
2024.
Mais si on est prompt engineer, on peut écrire.
Si on est prompt engineer ou data scientist, il faut nous écrire. Et on a plein de sujets super intéressants parce que ici, la data science et l'IA, c'est pas un sujet connexe. On est une boîte de tech, on est un pure player. Et donc, notre ADN et notre métier à 100%, c'est de fabriquer des produits digitaux qui sont les plus performants. Donc, quand vous faites de la data science chez nous, déjà la data, la donnée, elle est très, très propre, très bien structurée.
Elle
ce qui
est
fait
temps
gagner,
réel.
Elle est
temps
réel. On a des data architectes et on a tout un socle technologique extrêmement mature. Ça, c'est la faculté aussi des pure players. Donc, c'est quand même un terrain de jeu génial pour les data scientists parce que dans des entreprises plus traditionnelles, la data, elle est un peu partout et elle est compliquée.
Et puis, un gros taf du coup de cleaning et de data lake.
Exactement. Donc, qui n'est pas forcément le taf le plus rigolo quand vous arrivez.
Qui est nécessaire. Hein. Enfin, moi, je fais beaucoup de postes dans ces domaines-là, effectivement. Et quand on n'est pas pure player, c'est vrai que c'est plus complexe.
Voilà. Donc, nous, on a cet avantage-là. La donnée, elle est ici, elle est disponible, elle est propre. Et donc, c'est un terrain de jeu formidable parce que quand les data scientists, ils arrivent, je me souviens d'un jeune data scientist qui s'appelle Swahib, qui est toujours là, qui est arrivé il y a 18 mois. Et en fait, on avait un problème, il y avait un cas d'usage qu'on avait un petit peu de mal à traiter sur une partie du moteur de recherche. Et on ne savait pas comment bien le prendre. Et en fait, ce jeune garçon, il est arrivé et il a réfléchi, il a regardé ce qu'il pouvait faire. Et en 2 mois, il nous a proposé un modèle qu'on a testé d'abord sur une petite partie et qui marchait super bien. Et en fait, ce jeune garçon de 25 ans, il est arrivé et il a réussi à débloquer un truc qui nous gênait et qui gênait l'expérience client depuis des années qu'on n'avait pas réussi à craquer. Et lui, il l'a fait en 2-3 mois. Et depuis, le modèle a été déployé plus généralement. Voilà, donc c'est ça l'opportunité pour les data scientists chez nous.
Un vrai impact au niveau monde. Quel conseil justement tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail ?
Écoute, j'ai 3 enfants, ils sont encore un petit peu jeunes pour se poser directement la question, mais enfin, j'y pense quand même. Je pense que le premier point, c'est il faut être ouvert sur le monde, il faut parler hyper bien anglais, il faut sortir d'Europe.
Ouais. Tu parles japonais, toi, d'ailleurs ?
Moi, je parle 4 mots de japonais, mais nous, on est un groupe international, donc fort heureusement, l'anglais est notre langue de travail. Mais il faut participer à la conversation mondiale. Mon conseil, c'est... Moi, je dis à mes enfants, regardez la télé, les plateformes de streaming et tout, en version originale.
Non sous-titrée.
Sous-titrée en anglais. Pas sous-titrée en français, mais sous-titrée en anglais. Pourquoi ? Parce que je pense que ma génération a peut-être souffert d'une chose qui était une déconnexion avec ce que j'appelle la conversation mondiale. Et la conversation mondiale, elle se déploie en anglais, évidemment. Et elle se concentre pas uniquement sur ce qui se passe en Europe, mais aussi ce qui se passe en Chine, en Asie, au Japon, en Asie du Sud-Est, en Amérique. Et donc, c'est important d'être connecté via les réseaux sociaux, via les médias, via les plateformes de streaming, d'être connecté à tous ces environnements. Voilà. Il y a une ouverture culturelle, il y a un enrichissement culturel qui est essentiel, qui était déjà important au XXe siècle, qui l'est déjà encore plus et qui le sera toujours plus à mesure que nous avançons. Le deuxième conseil, c'est il faut comprendre la tech. Même si vous ne vous destinez pas et vous n'êtes pas passionné par le secteur de l'Internet, le secteur des services financiers, digitaux, whatever, vous avez, à mon sens, je crois, l'obligation d'intégrer la compréhension de la technologie au même titre que le français ou les maths. Mm-hmm. Voilà, donc moi, mes enfants, je leur fais faire un peu de cours de code et tout. Alors, ils aiment ou ils n'aiment pas trop. Hein. Mais voilà, en fait, je leur explique que c'est quand même important, même si ils ne trouvent pas ça génial de premier abord, comme faire une division ou un truc, tu vois. Mais je leur ai dit qu'il faut quand même se forcer. Parce que dans le monde dans lequel nous allons, de plus en plus pénétré par la technologie. En fait, le monde de la technologie, ce n'est pas vraiment un monde de grands concepts. Il faut théoriser, évidemment, mais c'est aussi beaucoup un monde d'expérimentation.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et donc, si tu veux comprendre un peu justement les intelligences artificielles, tu vois, il faut quand même regarder ce que c'est.
On apprend en codant, on apprend en promptant, en fait. C'est
exactement.
Vraiment ça aussi. Mais tout comme il y a quelques années, toi, comme moi, on a sûrement appris le digital en surfant, enfin, à l'époque.
Oui, et en faisant du HTML, tu vois.
Exactement. Des
donc, hyper important de garder ça à l'esprit. Et donc, il faut comprendre ce qui se cache derrière l'écran.
Donc, la conversation mondiale et le code.
Ouais.
C'est les 2 jolis conseils. Et à quelqu'un en reconversion, tu suggérerais quoi ?
La même chose.
La même chose.
La même chose, parce que la conversation, elle ne s'arrête pas et que les cycles technologiques sont de plus en plus rapides. Donc, exactement la même chose, avec la nécessité, évidemment, de rester curieux et d'avoir cette curiosité à mesure que le temps passe, de ne pas se recroqueviller sur ses certitudes ou sa propre définition de comment faire les choses, mais de garder ce qui fait l'éclat, la lumière, la dynamique, tu vois, c'est cette curiosité et cette envie d'apprendre et de découvrir des choses nouvelles.
Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. La première que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui te fait lever le matin ?
C'est justement ça. C'est en partie ma curiosité, mon goût pour l'innovation et puis ma curiosité pour ce qui va arriver, mon goût pour l'innovation. Et puis, c'est pas vrai tous les matins, mais c'est quand même vrai la majorité des matins. Tu vois, c'est quand même la conviction, le sentiment que le meilleur est à venir. Que ce qu'on a fait hier ou avant-hier, c'était super cool. On a sorti des super produits, on a éclaté les résultats et on a une super dynamique. Mais que je suis persuadé que les produits qu'on va sortir demain ou après-demain vont être encore meilleurs et vont nous permettre d'aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment le carburant. Si j'étais convaincu que nous sommes tous obligés, condamnés à jouer la décroissance et à faire moins de choses et que les possibilités se réduisent, eh bien, j'aurais du mal à me lever.
Qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit ?
Alors, c'est plus mes enfants parce qu'ils ont grandi. Alors, si, il y a un truc qui me tient éveillé la nuit, mais c'est les meetings nocturnes.
Ah oui,
parce que quand t'es dans un groupe international entre la time zone Tokyo, celle Pacific Time, tu vois, nous, l'Europe, on est juste au milieu. Donc, ce qui me tient éveillé, c'est les meetings à 2 ou 3 heures du mat.
Ça, c'est vache.
C'est dur.
C'est quoi ton prochain projet ?
Mon prochain projet, c'est on a des choses intéressantes à venir en Europe avec Rakuten. C'est de poursuivre sur la diversification de l'entreprise dans de nouveaux marchés en Europe.
De quel succès es-tu le plus fier ?
De mes enfants, d'abord.
Je l'attendais, il y a un très joli dessin, c'est pas du tout radio, mais il y a un très joli dessin, on enregistre dans ton bureau, où il y a marqué « Je t'aime, papa ». Je le dis, c'est pas radio, mais ça a le mérite d'être joli et poétique.
On parle beaucoup, et à juste titre, de l'entrepreneuriat et à quel point c'est essentiel pour la société. J'ai 3 enfants, faire une famille de 3 enfants, c'est un vrai projet aussi d'entreprise, qui est aussi exigeant, je pense, que celui de créer ou de diriger une boîte. Et à titre professionnel, non, je suis très fier de ce qu'on a réussi à construire ces dernières années. Je suis très fier de voir tous ces jeunes gens 28-29 ans de moyenne d'âge, tu vois, les gens qui nous entourent ici, qui viennent du monde entier et qui aujourd'hui sont des gens sur le marché dont on reconnaît, je pense, les valeurs, la compétence, la contribution à ce qu'ils font et qui sont fiers aujourd'hui sur LinkedIn, tu vois, quand je vois des ex-Rakuten.
Ouais.
C'était un truc qu'il n'y avait pas il y a quelques années dans cette entreprise.
Ça dit quelque chose. Est-ce que tu as un contenu, un média, un podcast, un documentaire, un bouquin, quelque chose à conseiller à nos auditrices et auditeurs qui s'intéressent au futur du travail ?
Alors, écoute, moi, Uzbek Erika, c'est un magazine que j'aime bien lire de temps en temps parce qu'il y a de très bons papiers sur le futur du travail, très régulièrement.
C'est des copains, donc on va les saluer, je les embrasse.
D'accord, donc ça, voilà. Et puis, moi, je lis beaucoup aussi la presse anglo-saxonne.
Ouais.
Je lis beaucoup The Economist, je lis beaucoup des publications Harvard Business Review parce que je trouve que encore une fois, il y a une compréhension des enjeux de ce qu'on appelle en français le travail, mais qui va au-delà. C'est mon emploi, c'est mon...
New culture of work.
Yes, absolument. Et pour finir, il y a un truc super bien qui commence à se populariser ou se démocratiser en Europe, mais qui était beaucoup moins connu il y a quelques années. C'est l'ikigai japonais. C'est un truc que j'ai découvert, qui est très intéressant. Et j'invite les gens qui sont curieux du concept. C'est un concept japonais qui définit en fait comment trouver le bon équilibre entre ce qui nous plaît dans le travail, ce qui est utile au monde, ce qui apporte une rémunération et donc une gratification du travail, et en même temps ce que l'on sait faire, tu vois.
Exactement.
Et en fait, c'est cette cartographie-là sur les 4 axes. Et il y a plein de choses très intéressantes qui vont au-delà, qui justement font que, en fait, c'est plus que du travail, c'est plus qu'un emploi, c'est un sens, évidemment, et c'est un épanouissement.
Eh bien, écoute, je mettrai les références de tout ça dans les notes de fin de podcast, et pour la petite histoire, je conclus mon deuxième bouquin sur la notion d'ikigai, c'est le dernier chapitre. Donc ça boucle la boucle. Merci beaucoup, Fabien. Si nos auditrices et auditeurs veulent te joindre, c'est quoi le plus simple ? Le mail, LinkedIn ?
Alors, LinkedIn, c'est très bien, sinon ils peuvent m'appeler.
Impeccable. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcasts. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par mail ou via LinkedIn. Prenez soin de vous et à très bientôt.